Bible de l'humanité, 1, l'Inde, chapitre 1er, le Ramayana. L'année 1863 me restera chère et bénie. C'est la première où j'ai pu lire le grand poème sacré de l'Inde, le divin Ramayana. Lorsque ce poème fut chanté, Brahma même en fut ravi. Les dieux, les génies, tous les êtres, des oiseaux jusqu'aux serpents, les hommes et les saints rishis s'écriaient « Oh, le doux poème qu'on voudrait toujours entendre, oh, le chant délicieux, comme il a suivi la nature !» On la voit, cette longue histoire, elle est vivante sous nos yeux. Heureux qui lit tout ce livre, heureux qui seulement l'a lu jusqu'à la moitié. Il donne la sagesse au brahme, la vaillance au kshatriya et la richesse au marchand. Si par hasard un esclave l'entend, il est ennobli. Qui lit le Ramayana est quitte de ses péchés. Et ce dernier mot n'est pas vain. Notre péché permanent, la lie, le levain amer qu'apporte et laisse le temps, ce grand fleuve de poésie l'emporte et nous purifie. Quiconque a séché son cœur, qu'il l'abreuve au Ramayana. Quiconque a perdu et pleure, qu'il y puise les doux calmants, les compassions de la nature. Quiconque a trop fait, trop voulu, qu'il boive à cette coupe profonde un long trait de vie, de jeunesse. On ne peut toujours travailler. Chaque année, il faut respirer, reprendre haleine, se refaire aux grandes sources vives qui gardent l'éternelle fraîcheur. Où la trouver, si ce n'est au berceau de notre race, au sommet sacré d'où descendent ici l'Indus et le Gange, là les torrents de la Perse, les fleuves du paradis. Tout est étroit dans l'Occident, la Grèce est petite, j'étouffe, la Judée est sèche, j'allaite. Laissez-moi un peu regarder du côté de la Haute-Asie, vers le profond Orient. J'ai là mon immense poème, vaste comme la mer des Indes, béni, doué du soleil, livre d'harmonie divine où rien ne fait dissonance. Une aimable paix y règne, et même au milieu des combats, une douceur infinie, une fraternité sans bornes qui s'étend à tout ce qui vit, un océan sans fond ni rive d'amour, de pitié, de clémence. J'ai trouvé ce que je cherchais, la Bible de la bonté. Reçois-moi donc, grand poème, que j'y plonge, c'est la mer de lait. C'est bien tard, tout récemment, qu'on a pu le lire en entier. Jusque-là, on le jugeait sur tel morceau isolé, tel épisode interpolé, et précisément contraire à l'esprit général du livre. Maintenant qu'il a apparu dans sa vérité et sa grandeur, il est facile de voir que, quel que soit le dernier rédacteur, c'est l'œuvre commune de l'Inde, continuée dans tous ses âges. Pendant 2000 ans, peut-être, on chanta le Ramayana dans les divers chants et récits qui préparaient l'épopée. Puis, depuis près de 2000 ans, on l'a joué en drame populaire qui se représente aux grandes fêtes. Ce n'est pas seulement un poème, c'est une espèce de Bible qui contient, avec les traditions sacrées, la nature, la société, les arts, le paysage indien, les végétaux, les animaux, les transformations de l'année dans la féerie singulière de ces saisons différentes. On ne peut juger un tel livre comme on ferait de l'Iliade. Il n'a nullement subi les épurations, les corrections que les poèmes homériques reçurent du plus critique des peuples. Il n'a pas eu ses aristarques. Il est tel que les temps l'ont fait. On le voit aux répétitions, certains motifs y reviennent 2, 3 fois ou davantage. On le voit aux additions manifestement successives. Ici, des choses antiques et d'antiquité primitive qui touchent au berceau de l'Inde, d'autres relativement modernes, de délicatesse suave et de fine mélodie qui sembleraient italiennes. Tout cela n'est pas raccordé avec l'adresse de l'industrie occidentale. on n'en a pas pris le soin. On s'est fié à l'unité que cette diversité immense reçoit d'une vague harmonie où les nuances, les couleurs, les tons même opposés s'arrangent. C'est comme la forêt, la montagne dont parle le poème lui-même. Sous les arbres gigantesques, une vie surabondante crée des arbres secondaires et je ne sais combien d'étages d'arbustes, d'humbles plantes que ces bons géants tolèrent et sur lesquels, d'en haut, ils versent des pluies de fleurs. Et ces grands amphithéâtres végétaux sont très peuplés. Vers le haut planent ou voltigent les oiseaux aux 100 couleurs. Les singes à la balançoire des branches intermédiaires. La gazelle au fin visage par moments se montre aux pieds. L'ensemble est-il un chaos? Nullement. Les diversités concordantes se parent d'un charme mutuel. Le soir, quand le soleil éteint dans le Gange son accablante lumière, quand les bruits de la vie s'apaisent, la lisière de la forêt laisse entrevoir tout ce monde, si divers et si uni, dans la paix du plus doux reflet, où tout s'anime, où tout s'aime et chante ensemble. Une mélodie commune en sort, c'est le Ramayana. Telle est l'impression première. Rien de si grand, rien de si doux, un rayon délicieux de la bonté pénétrante, d'or, illumine le poème. Tous les acteurs en sont aimables, tendres, et dans les parties modernes, d'une féminine sainteté. Ce n'est qu'amour, amitié, bienveillance réciproque, prières aux dieux, respect aux brahmes, aux saints, aux anachorètes. Sur ce dernier point surtout, le poème est intarissable. Il y revient à chaque instant. Tout entier, à la surface, il est coloré d'une teinte admirablement brahmanique. Nos indianistes se sont si bien pris d'abord à cela qu'ils ont cru que l'auteur ou les auteurs étaient des brahmes, comme furent certainement ceux de l'autre grand poème de l'Inde, le Mahabharata. Par une étrange inadvertance, aucun d'eux n'a vu qu'au fond, les deux poèmes faisaient entre eux une parfaite antithèse et un contraste complet. Regardez cette montagne énorme, chargée de forêts. Vous n'y voyez rien, n'est-ce pas? Regardez ce point bleu des mers où l'eau semble si profonde. J'ai beau faire, mais je n'y vois rien. Eh bien, moi, je vous déclare qu'à ce point de l'océan, à 100 000 brasses peut-être, une perle étrange existe, telle qu'à travers la masse d'eau, j'en vois la douce lueur. Et sous cet entassement monstrueux de la montagne, un œil étrange scintille, certaines choses mystérieuses que, sans la douceur singulière qui l'accompagne, on croirait un diamant où se joue l'éclair. Ceci, c'est l'âme de l'Inde, âme secrète et cachée, et dans cette âme, un talisman que l'Inde même ne veut pas trop voir. Si vous osiez l'interroger, vous n'obtiendriez de réponse qu'un sourire silencieux. Il faut que je parle à sa place. Mais je dois préparer d'abord mon lecteur occidental, si éloigné de tout cela. Je ne pourrais me faire comprendre si je n'expliquais d'abord comment l'Inde, retrouvée à la fin du siècle dernier, connue dans son culte antique et dans ses arts oubliés, a laissé surprendre enfin le trésor des livres secrets qu'il était défendu de lire, qui donnait, simples et nus, ses primitives pensées, et par là, illuminait profondément, de part en part, tous ses développements ultérieurs.